Octave Mirbeau, un joyeux de rille. Figurez-vous un petit tonneau planté sur de courtes jambes et surmonté en guise de visage d'une tomate rougeoyante et dodue, d'une belle tomate à qui une large fente dans le travers de sa pulpe donnerait une constante expression de rire. Tel est l'exact, succinct et symbolique portrait de M. Cléophas ordinaire. Depuis 2 ans qu'il est mon voisin de campagne, il ne m'est pas arrivé une seule fois de surprendre un air d'ennui, d'inquiétude ou de tristesse sur ce visage gras, souriant et somptueusement coloré de bonheur. C'est peut-être la seule créature humaine qui m'ait été donnée de rencontrer, dont la physionomie sans remords révèle aussi lumineusement une existence exempte de malheurs et de ces accidents qui perpétue sur le visage des autres hommes les empreintes de la souffrance et les morsures du souvenir. Ah, le brave homme que M. Cléophas ordinaire, et combien il dut être heureux pour que jamais le passé ne revienne voilé d'une ombre, même furtive, la joie éternelle de ses yeux. Eh bien, voici ce qu'un soir, en dînant chez moi, et le vin l'incitant aux confidences, me raconta l'excellent et joyeux M. Cléophas ordinaire. J'ai eu, moi qui vous parle, une existence vraiment drôle, et je vous assure que je n'ai pas volé, ah non, par exemple, la petite pension de retraite que j'ai fini par toucher l'année dernière. Dieu sait après combien de difficultés, car la compagnie des chemins de fer, où je servais comme chef de gare, voulait me la contester. N'est-ce pas une honte ? Et ma foi, me la contesta durant 3 ans. Si j'avais pas trouvé une bonne place d'agent d'assurance, assurance sur la vie et contre les accidents, à votre service, mon cher monsieur, je ne sais pas comment j'aurais fait pour vivre durant ces 3 années. Non, en vérité, je ne le sais pas, mais j'aurais vécu tout de même. Et ici, M. Cléophas ordinaire se mit à rire bruyamment. Jamais d'ailleurs je n'ai vu un homme rire aussi franc rire que M. Cléophas ordinaire. Son rire calmé, il continua. S'il fallait que je vous raconte tout ce qui m'advint d'extraordinaire, je n'en finirais pas. Nous serions encore autour de cette table à 5 heures du matin. Bon, il faut savoir se borner. Parmi mes nombreuses aventures, dont quelques-unes sont inconcevables, et même, je veux dire, uniques, j'en choisirai 2 seulement. Elles vous donneront une idée des autres. Une de mon enfance et une de ma, mettons, vieillesse. Qu'est-ce que ça fait ? On n'est vieux que par la tristesse, n'est-il pas vrai ? Or, moi, j'ai toujours la gaieté imperturbable de mes 15 ans. Et quand la gaieté va, tout va. Demandez plutôt à ma gouvernante, cette chatte de Rosalie, que chaque jour, eh oui, eh oui. Tout son ventre fut secoué d'un rire qui se prolongea comme la sonnerie dansante roulante et sursautante d'un réveil matin. M. Cléophas ordinaire avala un plein verre de cognac et tapant ensuite sur la table, il reprit verveux. Attention, c'est le moment. J'avais alors 13 ans et ceci se passa pendant les vacances. Un après-midi, comme j'avais été bien sage, je fus autorisé à accompagner mon père et mon oncle, qui étaient de grands chasseurs, à la chasse. Nous montions, oh, je la revois encore, une sente étroite qui, bordée de ronces et d'ajoncs, menait au petit bois de galantes fontaines, lequel fourmille de lapins. Mon père et mon oncle, coude à coude, marchaient le vent, causant de je ne sais quoi. Mais à 4 pas d'eux, je venais derrière, portant le carnier. Mon père m'avait aussi, ce jour-là, confié son fusil. Imprudence fâcheuse, et qu'il doit bien regretter aujourd'hui, s'il est dans l'usage des morts, qu'il regrette quelque chose là-haut. Pour me donner un air plus martial, plus Saint-Hubert, j'eus l'idée de charger le fusil. Il est bien naturel, en somme, et qui fût venu à n'importe quel gamin de mon âge. Les cartouches étant dans un des compartiments du carnier, cette opération m'était facile. Je chargeai donc le fusil. Et voilà que, par suite d'une fausse manœuvre, pan le coup part, et que mon père à droite, mon oncle à gauche, s'abattent dans les rossiers de la sente et qu'ils restent étendus dans un sans un mouvement, sans un cri, la face tournée contre le sol et la nuque toute rouge de sang. La charge de plomb, serrée et drue, les avait atteints en plein crâne, au moment précis et malchanceux où leurs têtes rapprochées se confiaient sans doute quelques touches en secret de famille. Ils avaient été foudroyés, ils étaient morts. Ah, par exemple, ce n'était pas mal pour le début d'un aussi jeune chasseur. J'avais lieu d'être fier de ce résultat. Mais j'étais en même temps très surpris, très embarrassé. Je ne savais vraiment pas quoi me résoudre. Situation complexe. Par bonheur, un paysan se montra dans les ajoncs qui voulut bien me tirer d'affaire et ramena qu'un qu'à dans un tombereau les deux cadavres à la maison. « Malheureux Cléophas, qu'as-tu fait ?» cria ma mère, saisie d'horreur à la vue d'un tel gibier que certes elle n'attendait pas si copieux, comptant sur une simple giblette selon la coutume. Et moi, ne sachant pas, non, en vérité, ne sachant pas quelle attitude prendre, et si je devais tirer vanité de ce courat ou bien pleurer, je balbutiais bêtement. J'ai fait coup double, donc. Il faillit s'étrangler à force de rire, et c'est à peine si deux ou trois verres de cognac, avalés coup sur coup, purent le remettre en état de poursuivre son récit. La boisson le rendit familier et bredouillant. Il faillit s'étrangler à force de rire, et c'est à peine si deux ou trois verres de cognac, avalés coup sur coup, purent le remettre en état de poursuivre son récit. La boisson le rendit familier, bredouillant. « Eh bien, qu'est-ce que tu as ? » fit-il. Oh, « je vois que cette petite anecdote ne t'a pas déridé. Elle est pourtant pas banale, allons, avoue-le. Mais j'ai bien à t'offrir, mon vieux copain. » Je pense que celle que je vais te conter maintenant dilatera ta rate, morose et racornie. Allez, à ta santé, vive la bonne humeur. Après avoir choqué nos verres, voici comment ce diable d'homme parla d'une voix qui de plus en plus s'avinait. Oh, je te dirai pas à la suite de quelles infortunes familiales je dus entrer humble et joyeux employé dans l'administration des chemins de fer de l'extra-centre. Il te suffit de savoir qu'à l'époque où j'illustrais ma vie de l'incroyable aventure que je vais te faire connaître, j'étais chef de gare depuis des années et des années. Chef de gare et marié, oh oui, marié. Jusqu'à la garde, mon vieux copain. J'entends par là que ma femme m'exaspérait outre mesure par ses tracasseries, ses tyrannies, etc., etc. Donc j'eusse perdu ma bonne humeur, mais elle n'exaspérait na. Elle m'exaspérait au point que j'eusse été capable de me livrer à des folies de reconnaissance envers celui qui m'en eût débarrassé, per face et néfaste, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, par un trait de génie, je fus celui-là, tu vas voir comment. Rien n'est plus simple. Ma femme, qui depuis quelques jours était allée chez un sien parent, devait rentrer le soir du 24 septembre 1890 par le train 18. Oh, voici l'argument. La ligne étant à voie unique, le train 18 croise à la station le train 437, lequel se gare en arrivant et attend pour repartir que le train 18 soit passé. Ce jour-là, il y eut dans le service je ne sais plus quelle complication, dont je profitais habilement, malgré les protestations du mécanicien, pour faire repartir immédiatement le train 437. Mon calcul était mathématiquement limpide. Faire se rencontrer les deux trains et amener une épouvantable collision. C'est toujours drôle. Mais dans ce cas particulier, la drôlerie se compliquait de ceci, que ma femme, ma chère et horrible femme, se trouva dans le train tamponné. Et comme le mécanicien hésitait à exécuter mes ordres, je lui expliquai. Mais le train 18 à 45 minutes de retard. En lâchant toute vapeur, vous atteindrez K avant le passage du train. Là, vous vous garerez, vous aurez gagné une bonne heure. D'ailleurs, je prends tout sur moi. Il partit. Oh oui, je pouvais prendre tout sur moi. La nuit était profonde et sans lune. Il y avait en une brume épaisse, une de ces brumes dont on dit qu'elles peuvent se couper au couteau. Bonsoir, adieu. Bien des choses à la Camargue, chers petits agneaux. Naturellement, ce que j'avais prévu arriva, dans l'ordre où je l'avais prévu. À peine 2 kilomètres avaient-ils été franchis que, boum, bing, patatras, les trains se rencontrent, se montent l'un sur l'autre, se broient, s'enflamment. Les machines explosent, des bras, des jambes, des crânes, des troncs épars, toute une bouillie de chair humaine s'agglutinant à toute une pulvérisation de bois, de fer, de cuivre. Total, 150 morts, 212 blessés. Et parmi les morts, méconnaissables, hideusement mutilés, ma femme. Était-ce assez génial ce que j'avais combiné là? Monsieur Cléophas ordinaire trépigna, dansa sur sa chaise. Toute sa face de tomate dodue et rougeoyante s'alluma d'une illumination de joie. Mais il avait hâte de terminer son récit. Poursuivi, parbleu, tu le penses. Négligence dans le service, infraction au règlement, homicide par imprudence. Oh oui, je pouvais attraper 5 ans de prison. Mais voilà où le comique atteint les vertigineuses hauteurs du prodige. Je fus acquitté à l'unanimité, pour cette raison que j'avais chèrement payé la conscience de ma faute en perdant ma femme adorée dans la catastrophe. Tout le monde fut d'accord pour me plaindre, les avocats, les juges et la compagnie. Enfin, et je t'offre le bouquet. Remercié par la compagnie, je trouvai tout de suite, en attendant la liquidation de ma retraite, une excellente et productive place d'inspecteur d'assurance. Assurance sur la vie et contre les accidents. Oui, mon vieux, et à ta disposition. Et me tapant sur la cuisse, le corps soulevé par les hoquets d'un rire, il ajouta. Et tu voudrais que je ne fusse pas gai, pas joyeux de riz, pas bon enfant? Devant les miraculeux chants dont on se décora toujours toute ma vie, tu voudrais que ma face de joyeux garçon se voila de tristesse et s'encrassa de mélancolie? Mais tu es fou! Tu es fou! Oh, il est fou, il ne rit pas! Mais ris donc, brute rêveuse et sentimentale, bourrique, sois gai! Soyons gai! Puis ce furent des mots sans suite, des mots désordonnés et capricants. Je ne l'écoutais plus, car il était complètement ivre.